Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et c'est notre nouveau rendez-vous de 13h30 sur Europe 1. Franck Ferrand, comme chaque jour, nous entraîne effectivement au cœur de l'histoire. Bonjour Franck.
Bonjour Julia.
Alors dans quelle époque votre machine à remonter le temps va-t-elle nous plonger cet après-midi ?
Eh bien, je vous propose d'aller nous promener dans un cadre à la fois fascinant et inquiétant, puisqu'il s'agit du Paris médiéval, celui du temps de Charles V et de Charles VI. Mmh. Nous allons faire là-bas la rencontre d'un des alchimistes les plus célèbres de tous les temps.
Alors les alchimistes, c'était je crois des drôles de savants qui prétendaient transformer le plomb en or.
Oui c'est ça, ils partaient de métaux, on appelait ça des métaux vils, et puis on allait vers les métaux précieux. Mais ça va beaucoup plus loin que ça l'alchimie, vous allez voir.
D'accord. Alors vous qui nous écoutez chers auditeurs, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à nous les adresser par mail à l'adresse d'Europe 1, europe1.fr, ainsi que sur la page de l'émission qui s'appelle « Au cœur de l'histoire ».
Je ne sais pas Julia s'il y a des fans de Nicolas Flamel, mais en tout cas ils vont être servis. Ce qu'ils sont.
...14h30 sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Je vous propose de nous lancer sur les traces d'un homme célèbre parmi les alchimistes. Alors, vous savez, donc, les alchimistes, ces faiseurs d'or, ces curieux chercheurs au savoir immémorial, ça remontait vraiment très très loin, leur science. Ils prétendaient détenir le secret de la pierre philosophale. Qu'est-ce que c'est que cette pierre philosophale ? Eh bien, c'était une mystérieuse, oh, très mystérieuse substance, capable de changer les métaux ordinaires en or pur, capable aussi, ne l'oublions jamais, de guérir les malades et de prolonger la vie, de la prolonger, disait-on, indéfiniment. Le problème de la plupart des alchimistes, c'est qu'ils cherchaient la pierre philosophale mais ne la trouvaient pas. Leurs échecs sempiternels ne les rebutaient pas tant que ça. Ils cherchaient, ils continuaient de chercher, ils étudiaient, ils peaufinaient leur savoir sans se décourager et d'autant plus que certains très rares étaient réputés avoir réussi. Et au premier rang de ceux qui sont censés avoir réussi, il y a un certain Nicolas Flamel, c'est lui que nous allons rencontrer. Où est-ce qu'on va aller le chercher ? Eh bien, pas très loin d'ici, en plein Paris. Alors, si vous êtes parisien ou si vous connaissez un peu la capitale, vous avez évidemment à l'esprit la Tour Saint-Jacques dans le quartier du Châtelet, entre l'hôtel de ville et le Châtelet. C'est une sorte de clocher gothique qui de nos jours s'élève tout seul au milieu d'un square. L'église Saint-Jacques dont elle faisait partie, cette église a été détruite à la Révolution, mais à l'époque on a préservé le clocher parce que l'on pensait, peut-être à tort du reste, on pensait que c'est du sommet de ce clocher que Pascal avait effectué des expériences décisives sur la pesanteur. D'où ce vestige un petit peu incongru en plein cœur de Paris, cette drôle de tour qui vient d'être restaurée d'ailleurs. Elle est de nouveau bien blanche en ce moment, bien clinquante. Pour combien de temps, ça c'est une autre histoire. En tout cas, le vestige est toujours là. Alors je vais vous demander un effort d'imagination. Vous allez dans votre tête oublier toutes les voitures, les embouteillages, le square lui-même. Vous allez reconstruire cette église Saint-Jacques de la Boucherie, qui est le point d'ancrage des Parisiens coléreux et rebelles. Je vais y revenir dans un instant. Cette paroisse indépendante entre Notre-Dame et Saint-Martin-des-Champs. Vous allez oublier tous les grands immeubles haussmanniens qui aujourd'hui hérissent le quartier et rebâtir en rêve de petites maisons de bois et de torchis. Des maisons à colombage pour la plupart. Vous allez imaginer tout ce quartier cerné d'ateliers de tanneurs du côté de la Seine, des shops de bouchers. Forcément, les ruisseaux dans le milieu des rues et des ruelles charrient un peu de sang. Ça fait partie de l'ambiance. C'est une atmosphère assez pestilentielle. Je vois déjà Julia en train de faire une grimace terrible. C'est vrai que c'était pas très brillant. Les cochons se promenaient librement dans les rues. Enfin, faut imaginer tout ça. Ah, vraiment une autre époque. Il y a beaucoup de bruit. Pas des bruits de moteur, hein. Des échos de conversations, évidemment, de disputes, d'échanges marchands. Bienvenue à Paris, au XIVe siècle, nous pouvons à présent partir à la recherche de notre alchimiste. Alors je ne résiste pas au plaisir de vous lire quelques lignes du livre 7 de l'Histoire de France de Michelet. « Ce sont d'étranges époques, » écrit Michelet. « On nie, on croit tout. Une fiévreuse atmosphère de superstition sceptique enveloppe les villes sombres. » L'ombre augmente dans leurs rues étroites, leur brouillard va s'épaississant au brouillard d'alchimie et de sabbat. Les croisées obliques ont des regards louches, leurs bouts noirs, des carrefours, grouille en mauvaises paroles. C'est ce qui s'appelle sans doute noircir un peu le tableau, mais il écrivait tellement bien Michelet qu'on se laisse prendre à ce tableau terrible. C'est tellement bien dit. Nous sommes en 1357, nous approchons de l'angle de la rue des Écrivains et de la rue des Marivaux. Les Marivaux à l'époque c'était les Marais. Il y a là une assez jolie maison à l'enseigne de la Fleur de Lys. Il n'y a pas de numéro de rue à l'époque, vous savez, donc on se repère aux enseignes. Nous sommes au beau milieu de la paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, donc ne l'oubliez pas. Allez, encore une petite dose de notre historien poète national, je le cite. « Saint-Jacques de la Boucherie était la paroisse des bouchers et des lombards, de l'argent et de la viande. Dignement enceinte d'écorcheries, de tanneries et de mauvais lieux, la sale et riche paroisse s'étendait de la rue Trousse-Vache au quai des Pots ou Pelletier. À l'ombre de l'église des bouchers, sous la protection de ses confréries, dans une chétive échoppe, écrivait... intriguait, amassait Flamel et sa vieille Pernelle, gens avisés qui passaient pour alchimistes et qui, de cette boue infecte, surent en effet tirer de l'or. » Voilà ce qu'écrit Michelet. Alors, pourquoi est-ce que Michelet, dès qu'il nous parle de cette paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, focalise de la sorte sur Nicolas Flamel et sa vieille Pernelle, comme il dit, à l'enseigne de la Fleur de Lys? Eh bien, parce que Flamel est justement réputé avoir percé le secret de la pierre philosophale. Si l'on en croit la tradition, il aurait bel et bien transformé du plomb en or. Ça mérite tout de même qu'on se penche un peu sur son cas. Ça vaut la peine d'entrer dans l'échoppe de 5 pieds sur 7 au rez-de-chaussée de cette maison d'angle. Alors, quel est le véritable métier de Nicolas Flamel? Parce qu'après tout, alchimiste, c'est une vocation, mais ce n'est pas un métier. L'occupation officielle de Flamel est assez symptomatique, si je puis dire, est assez habituelle au XIVe siècle. Il est écrivain public. Faut pas oublier qu'à l'époque, l'imprimerie n'existe pas, évidemment. Les livres sont constitués de parchemins qu'il faut d'ailleurs préparer en livres, en codex, comme on dit. Et sur ces livres, évidemment, eh bien, inlassablement, on copie et l'on recopie les textes dont on a besoin. Il faut beaucoup de copieurs. On les appelle les écrivains. Et Nicolas Flamel est l'un d'eux. Si l'on continue de suivre Michelet, Flamel n'est pas écrivain juré, c'est-à-dire qu'il n'est pas agréé par l'Université de Paris, et ce serait la raison pour laquelle il serait venu s'installer à l'ombre de cette drôle d'église, sous la protection du curé de Saint-Jacques. Personnage puissantissime, le curé de Saint-Jacques, dans le Paris de l'époque. Il n'est pas prêtre, et non, mais il était greffier du Parlement, et donc homme de très grande et vaste influence. Donc, notre Flamel n'est pas écrivain juré, mais tout de même il est bachelier ès arts, il écrit aussi bien latin que français, il fait également office d'écrivain public et à ses heures de maître de calligraphie, de relieur aussi. Bref, c'est une sorte d'ancêtre de nos libraires et reprographes, à l'époque c'est un peu la même chose. Je vous ai bien dit qu'on est au milieu du XIVe siècle. Le voilà, tient Flamel sur le pas de sa porte. Un homme d'une trentaine d'années, on dit qu'il serait né vers 1330 du côté de Pontoise, assez grand, brun, avec un beau visage et un regard à la fois vif et, dit-on, aimable. Rien à voir, vous voyez, que l'image répandue depuis si longtemps du vieillard mutin caché par une énorme barbe blanche et auréolé du prestige un peu sulfureux de ses pouvoirs occultes. On est encore loin à ce moment-là du profil type de l'alchimiste, et pour cause, pour le moment, Flamel n'est pas encore alchimiste. Il ne pense même pas à la pierre philosophale, il ignore tout ou presque du long parcours de sagesse que la recherche de cette pierre philosophale implique. Au milieu du XIVe, Nicolas Flamel n'est pas encore alchimiste. Est-ce qu'il l'est véritablement devenu par la suite ? C'est ce qu'il affirmera lui-même dans son maître-livre, à condition qu'il l'ait écrit lui-même, le livre en question. Bon, nous verrons tout à l'heure ce qu'il faut penser de tout ça. Pour le moment, laissez-moi vous raconter ce qui constitue l'un des plus fabuleux destins de cette période troublée. Vous le racontez tel que la tradition nous en a transmis la mémoire. La vie de Nicolas Flamel va basculer à cause d'un songe. En effet, une nuit, il rêve d'un ange, vêtu de lumière qui lui apparaît et qui tient à bout de bras un gros livre dont la couverture est en cuivre doré. « Regarde bien ce livre, » lui dit l'ange. « Je le fais bien, l'ange, Julien. »
« Ah, très bien.
»« Regarde bien ce livre, tu n'y comprends rien, ni toi, ni bien d'autres, mais un jour, tu y verras ce que les autres ne pourront voir. » Alors Nicolas Flamel veut voir le livre, mais l'ange ne le laisse pas faire. Flamel tend les mains et l'ange recule, il sourit, il s'éloigne et puis finalement il disparaît. Flamel s'éveille en sursaut. Il a le sentiment que ce rêve était plus qu'un rêve, c'était palpable, comme si ce qu'il avait vécu en songe était plus fort, plus réel que la réalité. Alors ça va durer comme ça un certain temps, pendant plusieurs jours, le jeune écrivain public va rester habité par son rêve, visiblement il a du mal à s'en remettre, et puis le temps passe, il fait son œuvre, le souvenir de l'ange, le souvenir du livre doré s'estompe petit à petit, la vie reprend le dessus, jusqu'au jour où, dans l'échoppe de Nicolas Flamel, au coin de la rue des Marivaux, donc, se tient un petit homme vêtu de bure, au visage parcheminé, qui porte un lourd paquetage. Le bonhomme a l'air complètement épuisé. « Oh, vous semblez venir de loin, lui dit Flamel. Vous êtes fatigué, n'est-ce pas? Tenez, asseyez-vous donc sur cette escabelle. » L'homme ne se fait pas prier. L'écrivain public lui laisse le temps de reprendre son souffle. Il lui sourit. « Eh bien, mon ami, vous m'apportez quelque chose à copier ?»« Non, j'ai un livre à vendre, lâche le voyageur. » Un livre très rare. Il joint le geste à la parole, il sort de son paquetage un gros volume bien emballé, il le tend à Nicolas Flamel. Alors celui-ci ne sait pas trop quoi en penser, il regarde son visiteur, puis il entreprend de déballer le gros livre, un livre à la reliure de cuivre doré, avec les mêmes fermoirs alambiqués que dans le rêve. Flamel sent le sol se dérober sous lui, il finit par ouvrir le livre. Et sur les très vieilles pages du livre des pages en écorce, il retrouve exactement les signes étranges que l'ange, dans son rêve, lui avait montrés.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant.
13h44 sur Europe 1 et vous le savez maintenant, nous nous promenons au cœur de l'histoire. Et aujourd'hui, Franck Ferrand nous fait prendre l'air de Paris au Moyen-Âge.
Vous avez entendu, enfin quand je dis entendu, on a entreaperçu tout à l'heure 2-3 petites notes de triangle, Julia. C'est parce qu'on va mettre un peu de la musique d'Harry Potter dans cette émission. En effet, le premier tome d'Harry Potter mentionne Nicolas Flamel. On voit Nicolas Flamel qui, grâce à son fameux élixir de longue vie, est censé avoir vécu jusqu'à nos jours. J.K. Rowling lui donne approximativement 650 ans. Vous voyez que l'alchimie mène à tout. Pour le moment, dans notre histoire, Flamel est encore loin de cet élixir et du secret des alchimistes. Il vient d'acquérir cette espèce de grimoire, de livre très étrange, des mains d'un voyageur non moins étrange, qui s'est défait de son fardeau sans lui donner d'explication. Les pages sont donc couvertes de signes étranges, j'hésite à les appeler cabalistiques, vous allez comprendre pourquoi. Ils sont en tout cas couvertes de soleil et d'étoiles, de personnages ailés, de signes hermétiques du nom même du dieu Hermès. D'ailleurs, on distingue le caducée d'Hermès sur certaines de ses pages. Il y a des dragons à la queue fléchée, des espèces d'étranges serpents crucifiés. Bref, Flamel ne peut qu'être intrigué par le contenu de ce livre qui, d'autant plus, lui a été annoncé en songe. On est vraiment dans une idée de révélation. Il est lettré, je vous l'ai dit. Il maîtrise parfaitement le français, le latin, peut-être d'autres langues. Il déchiffre ce qu'il peut et il tombe sur une sorte d'adresse inaugurale qui dit « Abraham, juif, prince, prêtre, lévite, astrologue, philosophe, à la nation des juifs par l'ire de Dieu dispersée aux Gaules, salut ». Alors, il y a donc un message dans ce livre qu'il convient d'essayer de comprendre. L'écrivain, de plus en plus intrigué, va passer du temps à scruter, à décrypter ces pages antiques. Et à force de recouper un certain nombre d'éléments, à force de regarder, de détailler le moindre élément de cet énorme codex, de ce précieux grimoire qui contient tous ces étranges secrets, il finit par se convaincre qu'il y a là des secrets d'ordre alchimique, vous savez, de ceux qui ont trait à la transmutation des métaux vils en or. Je vous ai dit tout à l'heure que l'alchimiste n'était pas seulement ça, mais c'est ça d'abord, et c'est bien entendu ce qui fait rêver, j'ai envie de dire, c'est ce qui motive les chercheurs pour essayer d'appréhender cet extraordinaire savoir. Alors comment déchiffrer ces pages? Comment les faire siennes? Eh bien, Nicolas Flamel s'y occupe pendant des mois. Et pendant des mois, on sait qu'il se marie vers 1360 avec une jolie veuve, Dame Pernelle. Cette Dame Pernelle, qui a environ 40 ans à l'époque, est un esprit curieux. Et elle va non seulement aider Flamel, elle va non seulement le motiver à en chercher davantage, mais elle va l'aider, elle va s'intéresser personnellement à la question. Il l'a mise entièrement dans le secret. Ils travaillent donc maintenant tous les deux pendant des mois entiers. Et Dame Pernell est convaincue parce qu'elle a fréquenté, semble-t-il, dans sa jeunesse, elle a fréquenté un certain nombre de savants juifs. Elle est convaincue de la dimension kabbaliste de l'œuvre. Il y a bien là un rapport avec la Kabbale. Il faut, dit-elle, trouver des savants juifs. Il faut travailler avec les juifs. Ce sont eux qui donneront la clé de cette affaire. Il faut vous dire que dans le Paris de Charles V et des tout débuts du règne de Charles VI, les juifs sont tout juste tolérés. Ils font d'ailleurs assez souvent figure de bouc émissaire. Et bien entendu, il n'est pas très facile ni de les rencontrer, ni surtout de leur faire parler de leurs secrets et de la Kabbale. Pour le couple de Nicolas Flamel et de Dame Pernell, ça n'est évidemment pas facile. Les mois passent, puis les années. Quand je dis les années, ça va durer très longtemps. On sait qu'ils ont tendance à s'intéresser de plus en plus à leur grimoire. Ils le connaissent maintenant par cœur. Nicolas Flamel en a effectué une copie complète. Ça dure 18 ans, ce travail de copie, de recherche, de scrutation infinie. Et puis, en 1378, donc en 1378, Nicolas Flamel a en gros la cinquantaine, il a maintenant une position bien établie, il n'est toujours pas écrivain juré, mais il a une véritable place parmi les libraires de Saint-Jacques de la Boucherie, il a un peu d'argent et il décide de partir en pèlerinage, pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. Quand vous tenez échoppe, quand vous tenez boutique au pied même de l'église Saint-Jacques, qui est le point de départ, enfin l'un des principaux points de départ des grands pèlerinages pour Saint-Jacques de Compostelle, c'est presque une obligation. Mais évidemment, Nicolas Flamel a une arrière-pensée. Il a une idée derrière la tête. Il se dit que s'il pouvait approcher les cénacles juifs de la péninsule ibérique, s'il pouvait aller en Espagne, d'où vient, en tout cas, par où provient le vieux savoir alchimique, il ferait sans doute des progrès dans le décryptage de son étonnant livre. Il décide donc de se joindre à un groupe de pèlerins de Saint-Jacques pour s'approcher de l'Espagne et surtout pour approcher les savants juifs de la province de Léon. Car on approche là de Saint-Jacques de Compostelle. Vous savez qu'à l'époque, on fait le voyage à pied, bien entendu. C'est un énorme investissement. C'est véritablement le projet d'une vie d'effectuer ce genre de grand pèlerinage. Et dans la province de Léon, il y a un grand nombre de spécialistes de la Kabbale. Et parmi tous ceux qu'il va croiser, qu'il va tenter de convaincre et de séduire avec des copies du livre qu'il a littéralement cousu dans la doublure de son manteau, parmi tous ces grands savants, Nicolas Flamel fait la connaissance d'un certain médecin converti du reste qui s'appelle Canchès. Or ce Canchès est alchimiste. Et dès qu'il a possession des copies que Nicolas Flamel a pu faire de son extraordinaire grimoire, immédiatement, il se convainc de l'importance de l'ouvrage. « Mais je veux voir l'original, dit-il à Flamel. Mais l'original n'est pas là, il est très lourd, je l'ai laissé à Paris. » Eh bien, dans ce cas, j'irai avec toi, j'irai à Paris. Et ensemble, nous déchiffrerons tout cela. Et les voilà qui se remettent en route, toujours à pied cette fois, dans la direction de Paris. Ils retraversent toute la France avec, vous savez, toutes ces haltes, toutes ces étapes sur le chemin de Saint-Jacques. Et pendant qu'ils cheminent, évidemment, Canchès et Flamel parlent. Ils se livrent un certain nombre de secrets et Canchès va peu à peu initier Nicolas Flamel au secret du grand œuvre. C'est très fatigant pour un homme comme Canchès, qui est un vieux monsieur, c'est très fatigant cet énorme voyage, cette énorme pérégrination à travers les différentes provinces jusqu'à Orléans. Quand ils arrivent à Orléans, Canchès est très fatigué, il est même épuisé et il va mourir avant d'arriver à Paris, avant d'avoir pu voir de ses propres yeux le fameux grimoire, l'original. Mais, évidemment, Nicolas Flamel a pu obtenir, pendant cette très très longue pérégrination, pendant ces longues heures qu'ils ont passées à discuter ensemble, il a pu obtenir suffisamment d'éléments pour arriver lui-même à décrypter ce qui, jusqu'ici, lui restait hermétiquement fermé. Nicolas Flamel enterre son ami Canchès à Orléans, et il reprend son chemin, il reprend sa route jusqu'à Paris, où il va retrouver Dame Pernelle. C'est un long chemin qu'il effectue et l'on peut dire que le parcours de Nicolas Flamel sur la route de Paris est un véritable parcours initiatique, bien entendu. Il retrouve donc sa femme après tout ce temps et les voilà qui, bien sûr, se mettent immédiatement à l'ouvrage. Près de 2 ans et demi ont passé depuis le départ de Nicolas Flamel. Ils essaient de reprendre tous les éléments, ils les remettent ensemble, ils les juxtaposent, ils les interprètent, ils les mettent en perspective et puis peu à peu, ils arrivent au grand secret. Et si l'on en croit Nicolas Flamel, ou en tout cas le livre qui est publié sous son nom, le 17 janvier 1382, c'est le grand jour, sur les coups de midi, ils parviennent tous les deux à transformer une demi-livre de plomb en pur argent. Vous imaginez, il y a tant et tant de générations d'alchimistes qui jusqu'ici ont donné tout ce qu'ils pouvaient pour essayer d'arriver à ce résultat. Eh bien, Nicolas Flamel, avec l'aide de sa femme, il y est parvenu. Il a découvert le grand secret.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant.
Jusqu'à 14h30 sur Europe 1, vous écoutez Au cœur de l'histoire et Franck Ferrand se demande aujourd'hui si un savant du nom de Nicolas Flamel a découvert au XIVe siècle le secret de la pierre philosophale.
Ah oui, ce secret de la pierre philosophale. Vous savez, l'alchimiste devait maîtriser 3 techniques. L'œuvre noire, qui consistait à débarrasser la matière de ses impuretés. Je vais très vite sur ces questions, c'est beaucoup plus complexe en réalité. C'est même tellement complexe qu'en fait on s'y perd volontiers. L'œuvre au blanc, qui consiste à fabriquer la pierre blanche qui va transmuter les métaux ordinaires, les métaux vils en argent. Et puis l'œuvre rouge qui transforme, qui permet de fabriquer la pierre rouge et donc de transformer le mercure en or. Ces alchimistes nous ont fait énormément rêver, ils continuent de le faire. Tout à l'heure, avec un des plus grands spécialistes de la question, nous essaierons d'en savoir davantage et de comprendre quelle est cette discipline qu'on appelait l'alchimie et qui, vous le verrez, était finalement peut-être moins sulfureuse que ce que les écrivains de l'époque romantique ont voulu nous faire croire. Aujourd'hui encore, un grand nombre d'artistes font allusion aux alchimistes. Écoutez par exemple Robert Charlebois.
Je suis un troubadour perdu, venu d'un autre Moyen-Âge. J'ai voyagé comme j'ai vécu au cœur de la chimie des sages. Je suis dans le bateau des ondes et je ne chante que pour elle. Ma mort sera la fin du monde. Je m'appelle Nicolas Flamel.
Je m'appelle Nicolas Flamel, chante Robert Charlebois. Des chanteurs, mais aussi des écrivains. Vous savez qu'évidemment, c'est Marguerite Yourcenar qui a popularisé la notion d'alchimie et tous ses rites dans son célèbre roman L'œuvre noire. D'habitude, je parle aux auditeurs d'Europe 1 des mémoires d'Adrien, mais il faut dire un mot de l'œuvre noire. Je vous lis, si vous voulez, d'ailleurs un extrait où elle nous décrit le processus de transmutation alchimique, qui est aussi un processus d'apurement intime. Elle nous parle de son héros, vous savez, son héros Zénon. Jeune clerc, il avait lu dans Nicolas Flamel la description de l'opus nigrum, de cet essai de dissolution et de calcination des formes qui est la part la plus difficile du grand œuvre, écrit-elle. L'opérateur, brûlé par les acides de la recherche, était à la fois sujet et objet, alambic fragile et au fond du réceptacle, précipité noir. L'expérience qu'on avait cru pouvoir confiner à l'officine s'était étendue à tout. S'ensuivait-il qu'un jour il connaîtrait la pureté ascétique de l'œuvre au blanc, puis le triomphe conjugué de l'esprit et des sens qui caractérisent l'œuvre au rouge ? Du fond de la lézarde naissait une chimère. Il disait oui par audace, comme autrefois par audace, il avait dit non. La première phase de l'œuvre avait demandé toute sa vie. Le temps et les forces manquaient pour aller plus loin, à supposer qu'il y eût une route et que par cette route un homme pût passer. Voyez que la grande question que se posaient les alchimistes, c'était de savoir si oui ou non, il y avait quelque chose au bout de cet énorme chemin? Eh bien, Nicolas Flamel paraît nous dire oui. Il paraît répondre par l'affirmative à cette question, si l'on en croit le livre des figures hiéroglyphiques signé de Nicolas Flamel. L'écrivain public de la paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, en compagnie de son épouse Dame Pernelle, serait parvenu là où tant et tant d'autres ont échoué et échoueront par la suite. Ce serait, évidemment, cette transformation des métaux vils en métaux précieux, ce serait l'origine de la fortune spectaculaire du ménage Flamel, qui dans ces années-là se met à faire le bien autour de lui. On voit les Flamel acheter des maisons, ils en revendent, ils en rachètent, ils en font construire aussi. Notamment, ils font construire sur des terres achetées au prieuré Saint-Martin-des-Champs, ils achètent la maison du Grand Pignon, où ils logent des artisans pour un foyer, pour un loyer vraiment modique. Et ils logent également gratuitement les laboureurs. On les voit fonder des confréries d'artisans. Ils se mettent à prêter même certaines sommes au trésor royal. Voyez, ils font des dons, bien entendu, des donations à plusieurs paroisses, à des hôpitaux, dont les 15-20. Pour leurs contemporains, il n'y a pas de doute possible. Le seul moyen d'expliquer cette fortune, c'est que Nicolas Flamel ait été capable de fabriquer de l'or.
C'était le récit d'Au cœur de l'histoire sur Europe 1. On passe maintenant à la partie magazine, Franck
Ferrand. Oui, parce qu'on est allé loin là dans le conte, un conte fantastique, vous l'avez compris. Seulement, j'ai quand même une mauvaise nouvelle à vous annoncer, Julia. Ou une bonne nouvelle pour les incrédules parmi nos auditeurs. J'ai bien peur que tout ce que je viens de vous raconter ne soit complètement faux. Faux parce que fondé sur des sources éminemment contestables. Alors pour essayer de démêler le vrai du faux, j'ai fait appel à l'un des plus grands spécialistes français de l'alchimie, l'historien Didier Kahn, chargé de recherche au CNRS. Il est ici avec nous. Et si j'ai bien compris le sens de certains de ses travaux, juste après le journal de 14h, il va faire un sort à cette légende, belle légende,
très
légende
belle.
Dorée certes, mais à cette légende de Nicolas Flamel.
Sur Europe 1,
au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Dans la première partie de cette émission, j'ai beaucoup insisté sur la dimension de la transmutation des métaux ordinaires en métaux précieux. Mais évidemment, l'alchimie, c'est tout autre chose. Et c'est ce que nous allons essayer de voir pour le moment. Vous savez, on disait notamment que les alchimistes possédaient un élixir de longue vie qu'ils pouvaient vivre très longtemps. En l'occurrence, Nicolas Flamel est mort à Paris en 1418. On le disait presque nonagénaire, il est vrai. Du reste, certains ont prétendu qu'il n'était pas mort et qu'avec Dame Pernelle, il avait organisé de fausses funérailles pour aller se retirer dans les Indes. Près de 3 siècles plus tard, au tournant du XVIIIe siècle, le célèbre voyageur Paul Lucas, dont j'ai eu l'occasion de vous parler par ailleurs, Paul Lucas affirmera avoir rencontré Nicolas Flamel et Dame Pernelle là-bas aux Indes. Ils étaient toujours bien portants 2 siècles et demi plus tard et ils étaient évidemment très riche. Alors, nous allons essayer de savoir ce qu'il faut penser de toutes ces légendes en compagnie de Didier Kahn. Merci beaucoup Didier Kahn de nous avoir rejoints et d'avoir accepté et d'avoir écouté toutes ces fadaises que j'ai pu raconter, tous ces contes fantastiques et assez incroyables. Et il y a forcément une part de crédulité dans cette aventure alchimique. Il faut croire à la possibilité de transformer les métaux, de transformer le plomb en argent et le mercure en or.
Oui, mais ça, c'était très facile. La possibilité théorique existait.
Et d'ailleurs, la physique extrêmement moderne a prouvé que c'est possible, mais alors à quel prix ?
À quel prix, exactement.
Il faut des accélérateurs de particules et ça coûte des millions d'euros.
Et c'est pas très rentable. Non, c'était parfaitement possible en théorie dans les conceptions scientifiques de l'époque. Certains alchimistes, dès le XIVe siècle, ont été capables de produire des théories qui tenaient parfaitement la route. En même temps, il faut se représenter l'alchimie jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, on peut dire, comme jouissant à peu près du même statut qu'aujourd'hui la psychanalyse. C'est-à-dire qu'elle est acceptée par un grand nombre de gens et elle est tenue pour une fadaise par un grand nombre d'autres.
J'en profite pour saluer Alain Bourreau, que j'ai côtoyé autrefois sur les bancs de l'HESS, et c'est lui, dites-vous, qui notamment a fait cette comparaison. C'est-à-dire qu'en fait, on peut se livrer pendant très longtemps à une discipline sans obligation de résultat. C'est un peu là que la comparaison s'établit le plus entre psychanalyse et alchimie.
Voilà, mais naturellement, l'absence de résultat a tout de même posé beaucoup de problèmes aux alchimistes.
Et alors, si vous voulez, on va revenir un peu à Nicolas Flamel, parce que j'ai raconté son histoire là pendant une demi-heure, il faut quand même qu'on lui fasse un sort à ce Nicolas Flamel. Et le moins qu'on puisse dire est que vous êtes bien placé pour le faire, car j'avais pour préparer cette émission, évidemment, les écrits alchimiques de Nicolas Flamel tels qu'ils ont été édités par les Belles Lettres. C'est vous qui faites la postface de cette édition, et la première phrase de la postface, je la cite, « Le plus populaire des alchimistes français » ne fit jamais d'alchimie. Vous êtes en train de nous dire que Nicolas Flamel n'était pas un alchimiste.
Absolument. Absolument.
C'est un peu fort quand même.
Ah, il aurait été surpris, le pauvre.
Alors, s'il n'était pas alchimiste, qu'est-ce qu'il était ? Il faut dire que le premier historien à s'être penché sur son cas, c'est un abbé, le savant et ingénieux abbé Villain, nous dit Michelet. C'était en 1761. L'abbé Villain était l'historien de cette paroisse, de la paroisse de Saint-Jacques de la Boucherie, sur laquelle il y aurait énormément à dire. D'ailleurs, c'est un univers à part entière, cette paroisse de la Boucherie. Mais en l'occurrence, l'abbé Villain nous dit, c'était un riche libraire, c'était quelqu'un qui faisait de bonnes affaires, mais qui n'a jamais touché de près ou de loin à la Tanor.
Absolument. Et quand il se trouve qu'on a conservé le brouillon de son livre à la Bibliothèque historique de la ville de Paris, et c'est un prodige d'érudition, il travaillait exactement comme on travaille aujourd'hui, c'est-à-dire en prenant des petites notes et puis en les collant ensuite. Bon, à l'époque, on les collait sur des feuilles de papier. Et il a trouvé tout ce qu'il fallait trouver en puisant vraiment aux bonnes sources avec un grand esprit de discernement.
Donc là, vous parlez bien de l'historien, hein, le grand.
De l'abbé Villain.
De l'abbé Villain.
Oui, pas de Nicolas Flamel.
Pas de Nicolas Flamel. Et donc, ce que nous apprend l'abbé Villain, c'est qu'en fait, Nicolas Flamel aurait laissé dire quelque part. Ça l'arrangeait qu'on croit qu'il avait trouvé le secret de la pierre philosophale.
Non, alors ça, je pense que c'est une possibilité qu'on ne peut pas exclure, mais que j'ai eu l'occasion de constater dans d'autres cas, plus tardivement. Mais dans le cas de Nicolas Flamel, rien n'autorise à le penser sérieusement.
Ce qui veut dire que, du temps de Nicolas Flamel, on ne le soupçonnait peut-être même pas d'alchimie. C'est ça que vous êtes en train de dire.
Oui, je pense qu'il a fallu quand même attendre un petit peu après sa mort pour que cette légende commence à prendre forme.
Mais la légende, elle s'appuie évidemment sur un ouvrage incontournable.
Non, cet ouvrage n'est pas du tout incontournable. Cet ouvrage, il est démontré qu'il est extrêmement tardif. Il date, dans le meilleur des cas, de la fin du XVIe siècle.
Donc tout ce que je viens de raconter, cette histoire de l'apparition de l'ange, de la découverte du grimoire, du cheminement jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle, de l'intervention de Canchès, du retour à Paris, de la découverte, etc. Tout ça, c'est une légende extrêmement tardive qui est née, vous êtes en train de nous dire, près de deux siècles après la mort même de Nicolas Flamel.
Voilà, et ce qu'il faut admirer là-dedans, c'est l'art avec lequel l'auteur de cette supercherie a réussi à faire...
Qui est-il d'ailleurs, cet auteur ?
Nous ne savons pas, nous ne savons pas du tout, nous nous perdons en conjectures. L'art avec lequel il a réussi à faire tenir autant de choses, un récit si étoffé en aussi peu de pages finalement.
Alors, cette légende, elle a pris corps peu à peu. C'est-à-dire que au départ, on a effectivement cet écrit, ce récit. On parlait de Nicolas Flamel comme alchimiste quand même avant l'écrit en question.
Oui, oui, bien sûr. On en parlait depuis très exactement... alors, officiellement, depuis 1561, je dis officiellement parce que c'est la date de la première publication d'un ouvrage sous son nom, un poème alchimique. Mais on a retrouvé des petits traités d'alchimie mis sous son nom, qui date de la fin du XVe siècle. Donc, on voit que la légende a commencé à prendre forme, mais tout doucement, dès la fin du XVe siècle.
Est-ce qu'il était si riche qu'on l'a dit, quand même ? Est-ce que ce couple avait toutes les fondations, avait toutes les maisons, etc., qu'on a dites ?
Alors, Flamel, donc le vrai Flamel, là, se livrait à des spéculations immobilières, qui lui permettaient de gagner de l'argent, mais en même temps, on était en pleine guerre de 100 ans, et les spéculations immobilières ne rapportaient pas tant que l'on pouvait le croire. Le problème, c'est qu'il a eu un procès avec les héritiers de sa femme. Ce procès a duré longtemps, on en parlait encore, je crois, un demi-siècle après sa mort. Et c'est ce procès, et en même temps, la forme démesurément longue de son testament, mais qui n'était pas extraordinaire en soi, mais sur lequel l'attention était attirée à cause de ce procès, qui ont fini par laisser penser que finalement cet homme était très riche.
Oui. Et donc en fait c'est plutôt la longueur des procédures que l'épaisseur du, j'allais dire, du compte en banque. Mais à l'époque évidemment il n'y a pas de compte en banque. Voilà. Nicolas Flamel, donc vous avez bien compris, nous lui avons fait un sort. Je suis désolé, mais ce personnage si célèbre, ce grand alchimiste réputé pour avoir enfin lui touché du doigt ce secret auquel personne n'atteignait, eh bien Nicolas Flamel n'était pas alchimiste. Ce n'est pas moi qui vous le dis, chers auditeurs. C'est Didier Kahn en personne et qui s'appuie pour le dire sur tous les éléments possibles et imaginables. Nous sommes bien d'accord, on n'est pas là dans l'hypothèse, c'est une vérité historique que vous venez de nous dire.
Ah oui, c'est une certitude. Oui,
c'est une certitude. Absolument. Alors bon, tant pis pour Nicolas Flamel, on va quand même aller faire un petit tour tout à l'heure du côté de sa maison et puis vous nous parlerez, évidemment, Didier Kahn, des vrais alchimistes. Parce que si Nicolas Flamel n'était pas alchimiste, ça ne veut pas dire qu'à côté de ça, il n'y a pas eu des centaines et des centaines de vrais alchimistes extrêmement tous très intéressants à étudier.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Jusqu'à 14h30 sur Europe 1.
Plongé au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Et oui, au cœur de l'histoire se poursuit sur Europe 1. Et pour parler de l'alchimie et des alchimistes, Franck Ferrand a invité l'un des plus grands spécialistes de la question, Didier Kahn, qui est chargé de recherche au CNRS. D'ailleurs, j'en profite, auditeurs, n'hésitez pas à réagir, à intervenir par mail sur europe1.fr, mais aussi sur la page Facebook de l'émission.
Oui, on a beaucoup de petits messages très sympathiques, mais pas de questions fondamentales pour l'instant. Sinon, je me ferai évidemment l'interprète des auditeurs pour transmettre leurs questions à Didier Kahn. Nous sommes, on vient de raconter des choses horribles. C'est-à-dire qu'on vient de voir que finalement, Nicolas Flamel n'était pas du tout un alchimiste. Ça ne doit pas faire plaisir à quelqu'un. C'est Monsieur Alan Géham qui est au téléphone avec nous. Monsieur Géham, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous, le propriétaire de l'auberge Nicolas Flamel. Alors, ça n'est pas seulement un nom. Cette auberge, c'est une des anciennes maisons de Nicolas Flamel au 51 de la rue de Montmorency, dans le 3e arrondissement. Vous êtes le propriétaire de cette auberge et le chef cuisinier. Et c'est par passion pour Nicolas Flamel, via Harry Potter, que vous avez d'ailleurs racheté le restaurant.
Tout à fait. Je m'appelle Alan Géham, le chef de cuisine gérant de l'auberge Nicolas Flamel depuis 2007. Et voilà, tout le monde connaît Nicolas Flamel, c'était les plus grandes alchimies de tous les temps.
Et bien voilà, on vient de faire un sort à cette légende, j'en suis navré, mais ça n'enlève rien à l'intérêt du personnage. Cette auberge est un hommage, une sorte d'hommage vivant à Nicolas Flamel. Vous avez des clients qui viennent parce que c'était la maison de Nicolas Flamel?
Tout à fait. Il y a en moyenne entre 200 et 300 touristes qui passent par jour en prendre des photos de la façade. Il y a plein des gravures sur la façade. Il y a la prise.
Oui, il faut dire que cette façade qui a été refaite au 19e, hein, quand même, mais cette façade est particulièrement enjolivée, elle est très belle, elle est très, très spectaculaire.
Tout à fait, en fait, oui. C'était refait il y a 2 ans, mm-hmm. On refait la façade.
On est dans le quartier des Arts et Métiers, en fait. Hein,
exactement, on a rue de Montmorency, entre rue Beaubourg et rue Saint-Martin.
Voilà, c'est ça.
Pas loin des Arts et Métiers, pas loin du Beaubourg, dans ce quartier-là. Et en moyenne, il y a 200 personnes, 300 personnes qui passent par jour, qui prennent photo pour la façade. Et ensuite, on a plein de gens qui sont amateurs des alchimies. Mmh. Qui vient, qui regarde le lieu parce qu'on a gardé tous les bois de 15e siècle, plus les pierres, il y a tout ça. Et ensuite, amateur de la gastronomie, bien sûr.
Alors, bien sûr. Alors, moi, je n'ai pas encore eu la chance de goûter à votre cuisine, monsieur Géham, mais j'imagine que vous pourriez, en plus d'un restaurant, ouvrir quasiment une sorte de musée des alchimistes.
Oui, peut-être bientôt.
Ce serait sans doute une idée. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette maison est une des 3 plus vieilles maisons de Paris, par ailleurs.
Tout à fait. Celui-là date de 1407.
C'est ça.
Et ensuite c'était construire pour loger les gens pauvres. Mmh. Et demandant une seule chose, que faire la prière une fois le matin, une fois le soir. Mmh. Et ensuite, c'était repris, c'était auberge jusqu'à le début du 19e siècle, du 20e siècle. Ensuite, c'est repassé en restaurant. Et toujours, on a gardé le même esprit, accueillir les gens, que les gens qui sont comme chez eux, tout ça. Mais malheureusement, la prière, maintenant, ça ne fonctionne pas.
Oui, on n'est plus obligé de faire sa prière avant de se mettre à table. Il n'y a même pas de bénédicité chez vous, finalement.
Tout à fait, oui.
Merci beaucoup, Alan Géham, d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que votre auberge, l'auberge Nicolas Flamel, est au 51 de la rue de Montmorency, dans le 3e arrondissement de Paris. Vous voyez, Didier Kahn, à quel point le mythe a la vie dure, hein, néanmoins.
Et oui, c'est l'alchimiste le plus connu. Et pourtant, d'autres avant lui étaient censés déjà avoir découvert la pierre philosophale.
Alors, quand vous dites d'autres avant lui, ça remonte à quand l'alchimie? J'ai beaucoup cherché chercher, j'ai lu vos propres écrits, mais je n'arrive pas à trouver exactement de datation dans cette affaire. Ça se perd dans la nuit des temps ?
Non, pas du tout. Les premiers textes alchimiques semblent apparaissent clairement au 1er siècle de notre ère. Mm-hmm. On ne connaît pas vraiment l'origine de l'alchimie et on pense qu'elle est née de tentatives de falsification, enfin d'imitation, et qu'on est passé simplement de l'idée d'imitation à l'idée de fabrication artificielle.
C'est-à-dire qu'au départ, on aurait voulu imiter les métaux précieux.
Exactement.
Et puis peu à peu, on s'est dit, mais si on arrivait à transformer le métal vil en métal précieux.
Voilà, c'est-à-dire qu'on arrivait à atteindre les métaux, à leur donner l'apparence superficielle de l'or, et on s'est dit, on devrait donc arriver à l'éteindre plus en profondeur. Et de cette idée sont nés les premiers textes alchimiques grecs qui se sont transmis au monde arabe, qui ont donc été traduits en arabe.
C'est donc par les arabes que ça nous est revenu, d'où le nom d'alchimie sans doute.
Exactement.
Et ça vient ça donc par la péninsule ibérique. Donc
voilà. Voilà, de ce point de vue-là.
De ce point de vue-là, c'est le seul chose.
Flamel n'a pas tort de retourner en quelque sorte aux sources.
Vous êtes bien bon. Alors, finalement, quels sont. C'est vers le 12, 13e siècle que l'alchimie se généralise.
C'est vers le 12e siècle. Oui. Non, que l'alchimie fait son. C'est au 12e siècle que l'alchimie fait son entrée dans l'Occident latin. Voilà, puisque l'alchimie grecque qui a existé précédemment est entièrement oubliée. Elle ne sera redécouverte qu'au 15e siècle, dans l'Occident latin.
Et quelle est la grande période ? On pense toujours à la Ruelle d'Or, bien sûr, à Prague, on pense à cette époque de la Renaissance. Est-ce que c'est la grande époque de l'alchimie ?
Oui, on peut dire que c'est la grande époque de l'alchimie, à partir de la Renaissance, non pas parce que c'est la Renaissance. En réalité, la grande époque de l'alchimie commence au 15e siècle, à en juger en tout cas par la quantité astronomique de manuscrits d'alchimie qui se trouvent dans toutes les bibliothèques d'Europe. On peut situer son âge d'or, disons, entre la moitié du 15e et les années 1670.
Alors, cette alchimie n'est pas seulement une discipline physique consistant à transformer, encore une fois, des métaux ordinaires en métaux précieux. C'est aussi une sorte de parcours initiatique personnel. Il y a une dimension philosophique dans cette démarche, tout de même.
Je serais tenté de relativiser cette idée, parce que il y a une démarche philosophique, mais c'est une démarche de philosophie naturelle. C'est-à-dire que les alchimistes font ce qu'on appelle à l'époque de la philosophie naturelle. Ils cherchent à comprendre les ressorts de la nature. Bon, ça relève en partie de la philosophie à l'époque. Et ils produisent des théories, parfois même des théories de la nature tout entière, du fonctionnement de la nature tout entière. Maintenant, il existe des alchimistes qui s'intéressent à une application plus spirituelle de l'alchimie. Mais contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui, ils le font sans jamais déconnecter cette pratique de la pratique de laboratoire.
Donc ça, c'est un deuxième mythe. C'est-à-dire que depuis une quinzaine d'années, on a tendance à vouloir rénover le sujet, en quelque sorte, en disant mais il y a des alchimistes purement spirituels et d'autres qui sont des gens de laboratoire. Ce n'est pas vrai, en fait.
Alors, ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas depuis une quinzaine d'années. Ça a commencé avec le mouvement théosophique,
oui, d'ailleurs, oui.
En plein 19e siècle. Ces alchimistes qui cherchent une alchimie spirituelle qu'ils surajoutent et qui créent une interdépendance, disons, entre leur pratique de laboratoire et une sorte d'alchimie spirituelle, nous, bien sûr, ils nous fascinent. Mais il faut comprendre qu'ils étaient très minoritaires à l'époque. Donc nous sommes tentés d'en parler beaucoup, mais c'était vraiment une infime minorité.
Oui, c'était vraiment presque quelques originaux dans une discipline elle-même moins sulfureuse que ce qu'on a néanmoins longtemps pensé. C'est-à-dire qu'il y a une démarche qui, à l'époque, est une démarche entre guillemets scientifique, une démarche de recherche qui n'est pas spécifiquement occulte.
C'est-à-dire que si l'on veut schématiser, on peut commencer par dire que l'alchimie ne fait rien intervenir qui soit du domaine du surnaturel. Le mot occulte est un peu prêt à confusion parce que au Moyen-Âge, une science qu'on considère comme occulte, ça veut dire cachée. Donc
oui.
on considère que c'est une, on veut dire simplement que c'est une science dont les principes nous sont cachés. Nous n'arrivons pas à les connaître.
Qu'il faut décrypter.
Donc, il faut soit les décrypter, soit simplement
élucider,
les découvrir. Voilà, les élucider. Et donc, en ce sens, l'alchimie était considérée comme une science occulte. Mais ce n'est pas du tout le sens que nous lui avons donné depuis le 19e siècle.
Alors, je me suis plongé évidemment dans mes vieilles revues du début du 20e siècle, là, des revues historiques. Et on se rend compte que lorsque l'on consacrait dans les années 1920, 1925, des articles à l'alchimie, c'était comme un sujet quasiment encore actuel. Il existe aujourd'hui encore des alchimistes ?
Oui, bien sûr, il en existe, il en a toujours
actuellement
existé.
Actuellement encore ?
Ah oui.
Mais alors, il continue à vouloir transformer le plomb en argent ?
Oui, bien sûr, en or même.
Et ils y croient donc ?
Mais absolument, et sans doute beaucoup d'entre eux croient aussi à l'authenticité de l'histoire de Nicolas Flamel.
Alors moi, ce que j'ai découvert aussi, ce sont des historiens, ou en tout cas des chroniqueurs d'histoire, qui croyaient, non pas forcément à l'authenticité de l'histoire de Nicolas Flamel, mais à l'authenticité de la pratique, c'est-à-dire qui affirme que certains y sont parvenus. Mais vous êtes bien d'accord que tout ça ne s'appuie sur rien,
sur une
croyance.
L'éternel problème, c'est que, comme le disait un disciple de Lavoisier à la fin du XVIIIe siècle, on n'a jamais pu démontrer que la véracité de la phrase, il est impossible de faire de l'or, mais on n'a jamais pu démontrer non plus le contraire. Autrement dit, les gens sont renvoyés dos à dos. Il est impossible de prouver que qui que ce soit ait fait de l'or. Et le malheur, c'est que chaque fois qu'on tombe sur des alchimistes qui affirment y être parvenus, on découvre vite que ce sont des légendes.
Alors, il y a deux personnages que vous mettez un peu à l'index, si je puis dire, deux grands penseurs du XXe siècle pourtant, qui sont le grand psychologue et philosophe Jung, le docteur Jung, et puis par ailleurs Mircea Eliade, l'homme des mythes et des légendes, qui, pour vous, ont tendu à accréditer un peu plus les mythes alchimiques.
Oui, moi je tends à les pourfendre parce que ce que je cherche à montrer, c'est que l'alchimie a une histoire, que cette histoire, on peut la reconstituer à force de patience et de recherche. Et les écrits de Jung et d'Eliade, qui sont par ailleurs en eux-mêmes très intéressants, se situent de façon entièrement atemporelle, anhistorique. C'est-à-dire que pour eux, ce qu'écrit l'alchimiste Zosime au 3e siècle de notre ère, ça peut parfaitement être considéré comme équivalent à ce qu'écrit tel disciple de Paracelse en plein 16e siècle.
Expliquez-nous en deux mots qui est Paracelse, votre grand sujet d'étude. Je dis bien en deux mots parce qu'on entre là dans des choses et dans des disciplines qui sont un peu complexes, mais on ne peut pas, je pense, avoir battu Nicolas Flamel en brèche et avoir parlé des alchimistes sans dire un mot de Paracelse.
Non, absolument. D'autant que c'est Paracelse qui est probablement le moteur de cet âge d'or dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc Paracelse était un médecin et qui ne cherchait absolument pas la transmutation des métaux, mais qui se servait de l'alchimie pour préparer des remèdes au laboratoire. Et qui ne se servait pas seulement de l'alchimie de cette façon, mais aussi pour... il s'en servait comme d'un paradigme pour expliquer le fonctionnement de...
D'un modèle, d'un exemple, disons,
voilà,
en quelque sorte.
Voilà, un exemple pour expliquer le fonctionnement de l'homme. Par exemple, l'homme, un alchimiste en lui, c'est l'estomac, qui transforme les aliments en substances nutritives. Et de la même façon, il explique, à l'aide de l'exemple de l'alchimie, le fonctionnement de la nature tout entière. Et ça va très loin.
J'ai repris évidemment tout à l'heure l'œuvre noire de Marguerite Yourcenar. Le livre est fondé entièrement sur ce parallélisme d'ailleurs, hein, sur le corps, l'esprit, l'âme, et l'œuvre au blanc, l'œuvre au rouge, l'œuvre au noir. Voilà, c'est il y a là évidemment également une matière à réflexion et à philosophie. On nous pose juste quelques questions, des questions d'auditeurs, donc on va essayer d'y répondre très vite car il nous reste assez peu de temps. Citons peut-être trois ou quatre noms de véritables alchimistes puisque Nicolas Flamel n'en était pas un.
Oui, c'est que ce n'est pas facile.
Ah oui, parce
que... enfin, si je vous cite le pseudo Lulle, qu'est-ce qu'on va en faire du pseudo Lulle? Si je vous cite un certain Bernard Le Trévisan, qui probablement n'a jamais existé et qui n'est qu'un prête-nom. Si je vous cite le pseudo Geber, le pseudo Démocrite, on n'en finira jamais. Alors, un véritable alchimiste dont on connaît bien la personnalité maintenant, c'est Michael Sendivogius, un Polonais qui est qui a vécu de 1566 à 1636.
Vous voulez que je vous dise Didier Kahn, mais on est bien avancé. Patrick nous demande s'il y aurait un rapport entre alchimie et physique quantique. Oui, hein, on a dit tout à l'heure, c'est pas qu'il y a un rapport entre les deux disciplines, mais que évidemment la physique quantique aujourd'hui permet, sous des conditions extrêmes, d'obtenir les résultats que les alchimistes ont cherché toute leur vie. Sauf que ça coûte, encore, on l'a dit tout à l'heure, très cher. Et puis pour revenir et finir sur Nicolas Flamel, parce que le pauvre, vraiment, ce qu'on lui a fait subir aujourd'hui n'est pas très gentil. On nous demande d'où viendrait cette fortune, et c'est Elisabeth qui suggère que ça pourrait venir des créances de juifs expulsés de France. Alors, c'est vrai que ça, c'est une des explications qui ont été apportées. À une époque où, à deux reprises, hein, d'ailleurs, dans les années 1380, les juifs ont été exclus du royaume, Nicolas Flamel était chargé de récupérer pour leur compte un certain nombre de créances, et évidemment, ça aurait permis de...
C'est une légende qui est née notamment avec Gabriel Naudet, donc oui. Au début du XVIIe siècle, mm-hmm. et qui n'apparaît pas avant.
Oui, donc là encore, c'est une légende très tardive.
Et oui.
Désolé Elisabeth, mais ça fait partie des légendes auxquelles nous aurons tordu le cou cet après-midi. C'est très intéressant finalement d'avoir fait cet exercice. Ça m'amusait de raconter toute une histoire et puis de se rendre compte que cette histoire, partagée par tellement de monde et qui est devenue si célèbre, puisque on a même fait un personnage dans Harry Potter, hein, J.K. Rowling en a fait un personnage d'Harry Potter. Bon, et qui d'ailleurs, là en l'occurrence, n'est pas un alchimiste, mais un sorcier, c'est un peu complexe. Mais c'est intéressant de voir que ce personnage mythique, archi-célèbre, populaire entre tous, qui faisait partie de la fameuse galerie des héros populaires dans les années 1840, eh bien, ce personnage, il a bien existé, certes, mais il n'a jamais de près ou de loin été un alchimiste. Je suis vraiment désolé, mais nous sommes là aussi de temps en temps pour essayer de faire la lumière. Ce n'est pas une sorcière, c'est une fée qui vient de nous rejoindre en la personne de Faustine Bollard. Bonjour Faustine.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Jusqu'à 15h30 cet après-midi, nous allons parler de ces hommes et de ces femmes qui ont réussi à se soigner de leur addiction au jeu. À partir de quand devient-on vraiment une menace pour soi et pour les autres? Est-ce que nous sommes vraiment en France de grands joueurs compulsifs? De quelle manière on peut soigner, aider ces joueurs qui tombent vraiment dans la dépendance au même titre que la toxicomanie ou l'alcoolisme? Quelles sont les émotions qu'ont pu vous procurer le jeu si vous l'avez vécu? L'adrénaline, la surpuissance, on va essayer de comprendre les choses à travers vos témoignages et également essayer d'aider ceux qui ont besoin de notre soutien. Pour nous joindre, 3921, on est en direct sur Europe 1, et également le mail faustine.europe1.fr.
Voilà,
vous êtes mon enchanteur, vous. Aujourd'hui.
Merci beaucoup. J'ai un petit côté Merlin comme ça, mes heures perdues. Je voulais remercier beaucoup Lorena, Guillaume et Nicolas et vous dire que nous nous retrouvons demain avec un sujet, je ne vous dis pas lequel, tiens, mais très très différent.
Oui, voilà. À demain, Franck, sur Europe 1, 13h30.